Priorité Santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la conférence internationale sur le sida organisée par l'Institut Pasteur à l'occasion des 30 ans de la publication sur l'identification du virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, dans la revue Science. Mes invités pour en parler, le professeur Françoise Barré-Sinoussi, qui est prix Nobel de médecine, co-découvreur du VIH, qui travaille à l'Institut Pasteur, et deux chercheurs du Centre Pasteur du Cameroun, le docteur Tejo Kem et le docteur Chen Zhou. Professeur Françoise Barré-Sinoussi, donc justement à l'occasion des 30 ans de la publication dans la revue Science, hein, de l'identification de ce VIH qui à l'époque, Françoise Barré-Sinoussi, l'Institut Pasteur ne l'avait pas appelé le VIH, d'ailleurs c'est un autre
non,
nom.
Nous ne l'avions pas appelé VIH à l'époque parce qu'il avait, il a été isolé d'un patient qui n'avait pas encore le sida, qui avait un symptôme qui est fréquemment observé avant de développer un sida, qui sont des ganglions généralisés, des ganglions un petit peu partout.
Et c'était donc, un patient du professeur Willy Rosenbaum,
c'est ça? C'était un patient de Willy Rosenbaum, mais c'est grâce justement à cette interaction avec les cliniciens Willy Rosenbaum, Françoise Brin-Vizinet, Christine Rousiou, que l'on a pu définir d'ailleurs une démarche expérimentale qui a abouti finalement très très vite, puisque les premières discussions avaient lieu en décembre et qu'en janvier, déjà 83, le virus était isolé.
Alors quand vous avez isolé ce virus, vous aviez conscience là d'un moment très très important?
Oui, oui, tout en se disant qu'il y avait
du pain
sur
la
planche et qu'il y avait encore beaucoup beaucoup de travail pour d'abord convaincre la communauté scientifique internationale que ce virus était l'agent responsable du sida, convaincre les politiques qu'il fallait prendre des décisions par rapport à cette infection, convaincre aussi d'autres chercheurs, cliniciens, de venir à travailler avec nous, mobiliser en quelque sorte justement pour essayer d'aller le plus vite possible, car même si nous n'étions certainement pas encore conscients de l'amplitude de l'épidémie telle qu'on la connaît aujourd'hui, il y avait quand même urgence, d'une part parce que ce virus était visiblement transmis par le sang et par les dérivés sanguins. Donc, il fallait développer des tests de dépistage le plus vite possible et en même temps avancer sur le lien entre le virus et la maladie, caractériser ce virus qui visiblement était nouveau. Il y avait beaucoup,
mais
beaucoup de travail.
Mais on n'avait pas conscience de l'ampleur de la maladie en Afrique, par exemple.
Non, ça n'est qu'un petit peu plus tard, en fait, qu'on a commencé, dès 84, je dirais, à commencer à voir ce qui se passait sur le continent africain avec la fameuse réunion de Bangui organisée par l'OMS en 1985 qui a permis la définition du sida Afrique sur la base de critères finalement cliniques à l'époque. Et là, on avait franchement conscience à ce moment-là de l'amplitude de l'épidémie sur le territoire africain.
Et professeur Barré-Sinoussi, quand vous avez donc découvert ce virus, est-ce que vous vous êtes dit finalement, ça va être assez simple, à partir du moment où on a trouvé l'origine, on va trouver un traitement, un vaccin, processus, je dirais, relativement habituel à l'Institut Pasteur?
Oui, nous avions cette naïveté de penser qu'une fois que le virus était identifié, qu'on avait un petit peu travaillé sur sa caractérisation de tous ses constituants, eh bien finalement, un traitement et un vaccin, ça serait assez rapide et on n'avait pas du tout encore imaginé la complexité finalement de l'interaction entre ce virus et tous les acteurs de notre propre défense immunitaire. On commençait assez vite quand même à avoir une notion sur la capacité qu'avait ce virus à changer, puisque finalement, dès 84, on avait les premiers résultats aussi, où quand on comparait le virus d'un malade à celui d'un autre malade, c'était pas tout à fait le même virus. Et puis, on s'apercevait aussi que des virus de patients africains étaient encore plus différents que les virus que l'on avait chez les Français. Donc, la notion de la variabilité de ce virus est apparue assez vite. Par contre, sa notion d'échappement au traitement, d'échappement à la réponse immunitaire, tout ça a pris quelques temps.
Vous organisez donc, professeur Barré-Sinoussi, à l'occasion de ses 30 ans de cette publication, un symposium international qui réunit des chercheurs du monde entier. Quel est l'objectif de ce symposium? Faire un peu le point sur la recherche, voir dans quelle direction
on part. Il est volontairement, ce symposium, non pas orienté sur le passé, mais sur le futur. Sur le futur, parce que l'infection est toujours là. Parce que, et on l'a vu tout à l'heure quand on parlait des difficultés d'approvisionnement, de l'accès encore aux soins dans les pays du Sud, la nécessité d'avoir de nouvelles stratégies de traitement et de prévention pour demain. Alors, ce que nous en attendons, c'est d'une part d'avoir des présentations des derniers résultats, justement, à la fois de la recherche très, très fondamentale qui est toujours quand même à la base de ce qui va permettre justement de développer de nouvelles thérapeutiques ou de nouveaux candidats vaccins pour demain. Et ce que l'on attend aussi, c'est une mobilisation à nouveau, je dirais, de toute la communauté scientifique internationale pour travailler ensemble. Plus que jamais, je dirais encore aujourd'hui, il y a ce besoin de travailler tous ensemble, à la fois les chercheurs venant de la recherche la plus fondamentale avec la recherche clinique, avec la recherche préclinique et avec les pays en voie de développement. Donc c'est une sorte de mobilisation et d'appel justement à travailler ensemble comme on l'a fait finalement au début des années 80 et on sait que ça a marché et que ça a été très vite.
Et ça, c'est compliqué de travailler ensemble quand il y a des enjeux aussi importants de recherche. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté un peu de cacher ce sur quoi on avance en espérant soi-même, par exemple, découvrir le vaccin ou découvrir le traitement qui permettra de guérir?
Il y a toujours de la compétitivité dans le domaine scientifique, mais la compétitivité, je dirais, à faible dose, c'est toujours bon aussi, ça stimule. Mais il faut aussi travailler la main dans la main les uns avec les autres. Et quand il y a une synergie, une complémentarité justement entre les expertises des chercheurs, c'est ça qui permet d'avancer le plus vite possible. La compétitivité, elle touche des chercheurs qui travaillent exactement et qui ont la même expertise. Maintenant, s'ils se rassemblent les uns avec les autres, avec leur expertise complémentaire, c'est ça qui permet d'aller plus vite. Et là aussi, c'est une leçon, j'allais dire, aussi pour les pays du Sud, parce que dans des pays à ressources limitées, forcément, il y a cette tendance à voir les budgets uniquement pour sa propre équipe. Et je pense qu'au fil des années, au fil du temps, ils le diront mieux que moi, je crois que ces pays commencent à comprendre combien il est important justement de travailler en réseau d'équipe. Alors pour nous, l'Institut Pasteur, travailler en réseau, c'est quelque chose dont on a l'habitude déjà, mais travailler en réseau d'équipe pluridisciplinaire, c'est quelque chose qui est en plein développement, y compris au Sud.
Et vous l'avez bien dit, il faut que ces recherches aboutissent aussi au Sud, donc que l'accès au traitement avance dans les pays du Sud. Pour le Cameroun, justement, on en est où? Combien de personnes ont accès au traitement? Combien devraient y avoir accès? Ils n'y ont toujours pas accès. Docteur, je ne sais pas lequel des deux veut répondre, Tianjou ou Tejokem.
Tianjou. Oui, au Cameroun maintenant, on sait que parmi les personnes éligibles au traitement, près de 50% de ces personnes ont effectivement accès au traitement. Et comme on l'a signalé depuis le début, il y a une progression. Dans le temps, il y a une progression, même s'il y a un certain nombre de contraintes qui ont été signalées tantôt. Mais on sait que c'est en nette progression le nombre de personnes qui ont effectivement accès au traitement.
Et professeur Françoise Barécine aussi, dans le monde, on en est où sur les chiffres d'accès au traitement?
Il y a à peu près, il y a 8 millions de personnes qui sont sous traitement dans le monde aujourd'hui.
C'est le double qui en aurait besoin.
C'est au moins le double. Je dirais même plus du double si on se base sur les nouvelles recommandations que l'OMS va annoncer au mois de juin, qui est de traiter encore plus tôt les patients. Aujourd'hui, on les traite lorsqu'ils ont un nombre de lymphocytes CD4 à 200. L'OMS va dire 500. Ça veut dire qu'il va y avoir besoin de beaucoup plus de personnes à mettre sous traitement. Et puis aujourd'hui, il y a de plus en plus de données scientifiques justement qui montrent tout le bénéfice de traiter le plus tôt possible l'adulte, l'enfant, comme le disait Mathurin. Clairement, quand on traite plus tôt, on diminue la mortalité et aussi c'est une méthode de prévention.
Et on va revenir justement sur ces recherches qui expliquent à quel point il faut être sous traitement le plus tôt possible.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons des avancées dans la recherche contre le sida. Professeur Françoise Barécine-Houssy, on dit que dans le monde, 50% des personnes séropositives ne connaissent pas finalement leur statut, donc d'où l'importance du dépistage dont nos deux invités du Cameroun parlaient tout à l'heure.
Tout à fait. Accéder au dépistage, finalement, reste encore la première priorité. S'il n'y a pas de dépistage, il n'y a pas accès aux soins et aux traitements. Donc c'est un cri aujourd'hui finalement de la communauté internationale pour dire à tout un chacun, allez vous faire tester. Les États-Unis commencent à annoncer que finalement ce test va se faire systématiquement.
Alors systématiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire obligatoire, alors, pas obligatoire? Ça veut dire quoi le systématique? On s'en sort comment de cette question-là?
Ça veut dire qu'en fait, les personnes seront informées quand même. Et que bien sûr, ça reste sur la base du volontariat, mais ça sera systématiquement proposé pour que les personnes se fassent dépister le plus tôt possible et pouvoir bénéficier des traitements. C'est un point majeur. Et vous savez, pour ça, il faut combattre ce qui reste quand même la réalité. La stigmatisation, la discrimination contre les personnes qui sont affectées par ce virus.
Et ça dans tous les continents?
Dans tous les continents, alors plus ou moins selon les pays, selon les continents, mais il est clair quand même que ça reste un des gros obstacles à l'accès au dépistage, en particulier dans les pays, j'allais dire du Sud, mais aussi de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale. Cette stigmatisation et cette discrimination vis-à-vis de certaines populations, le regard des autres.
Docteur Tijoquem, je vous vois faire oui de la tête, effectivement, et entre autres discrimination de certaines populations, je pense aux homosexuels sur le continent africain, particulièrement au Cameroun.
Sur ce point, je pense que le problème des discriminations, pas seulement de certaines populations, même au niveau de l'âge de la population, il se fait sentir. Et donc, progressivement, en essayant d'évoluer, de faire évoluer les mentalités dans ce sens-là, on verra aussi bouger cette stigmatisation par rapport à un certain nombre de groupes. Parce que pour nous, si dans l'ensemble, il n'y a pas déjà cette évolution, ça risque pas d'évoluer dans ces groupes.
Docteur Tijoquem, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, tout simplement pour dire que, le professeur François Barré-Sinoussi l'a bien signalé au début, et il y a la question de la réflexion de toutes les stratégies innovantes qui permettent d'avoir accès à tous les groupes dans la population. Parce qu'aujourd'hui, la question du dépistage, elle est très vaste. Elle doit toucher, bien entendu, les personnes qui fréquentent le système de soins. Mais maintenant, il faut réfléchir à même les stratégies pour pouvoir voir dans quelle mesure, en communauté, on peut également arriver à proposer ces interventions. Parce que, comme la question du dépistage est centrale, et qu'il faut essayer d'aller vite, en allant vite, on a un maximum de personnes qui se font dépister. Et donc, de cette façon, même finalement, les groupes les plus restreints de la population, si on accroît le dépistage, on peut arriver effectivement à pouvoir toucher toutes ces populations.
Professeur Françoise Barré-Sinoussi, je voudrais qu'on parle des dernières études justement qui montrent l'importance d'un traitement le plus précoce possible. Je pense à l'étude Visconti dont on a plusieurs fois parlé dans cette émission, mais pas seulement ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot d'où en est la recherche sur ces questions-là? Et avec cette éternelle question, est-ce qu'on va pouvoir guérir de la maladie?
Alors ça, c'est bien sûr une des grandes priorités de la recherche aujourd'hui, la guérison. Je dirais plutôt que la guérison, je préfère parler de rémission permanente, c'est-à-dire d'avoir un traitement que les personnes puissent arrêter. Le virus est toujours là, mais il contrôle naturellement, entre guillemets, leur infection. C'est un petit peu le cas, justement, des fameux patients Visconti. Ces 14 patients qui ont été traités très très vite, puisque il s'agissait des premières semaines finalement après l'exposition au virus, en moyenne 10 semaines. Ils ont été pris en charge, traités par le traitement classique d'antirétroviraux, et après 3 ans ils ont arrêté le traitement, et depuis plus de 7 ans ils sont sans traitement. Et ils vont très très bien. Et on peut clairement associer ce contrôle de leur infection au fait qu'ils ont une quantité de ce qu'on appelle les réservoirs viraux, c'est-à-dire les cellules qui contiennent le virus à l'état dormant, une quantité extrêmement faible et qui a probablement été contrôlée très vite parce qu'ils ont eu justement accès au traitement extrêmement vite.
Et l'étude que met le docteur Tijoquem au Cameroun, est-ce qu'elle va exactement dans le même sens, c'est-à-dire en mettant des enfants très très tôt sous traitement, est-ce qu'on pourra essayer la même chose?
Ça va exactement dans le même sens. D'ailleurs, on est en train de réfléchir avec Mathurin, et on va en parler dans quelques semaines au Cameroun, à faire des études justement chez les enfants pour savoir la taille des réservoirs viraux chez les enfants qui sont traités très très tôt. dans ce même objectif que vous citez.
Mais concrètement,
et puis il y a eu ce fameux bébé, le bébé Mississippi, la petite fille qui a été traitée finalement dans les premières heures après la naissance. Et puis sa maman avait disparu de la nature, avait arrêté le traitement, et il semble que ce bébé finalement perde progressivement son virus.
C'est ça, c'est pas l'équipe médicale qui a décidé d'arrêter le traitement, c'est la maman.
Non, là pour le cas de.
Mais c'est important de le préciser.
Oui, oui.
Mais ça veut dire que.
Mais
vous...
ça c'est pas bien. Hein. Ça, je veux dire que.
Oui, c'est pas,
là,
c'est pas à conseiller. Oui, oui, non, nos auditeurs qui écoutent, c'est pas ce qu'il faut faire. Hein.
Non,
faut
non,
pas
non.
Essayer d'arrêter
le traitement.
Il faut
que ça soit quand même fait en concertation avec le milieu médical.
Mais c'est ça. Mais alors pour poursuivre cette étude dont on parle au Cameroun, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, docteur Tedjokem, vous pourriez arrêter chez ces bébés que vous avez mis sous traitement très tôt, arrêter le traitement pour voir comment ils réagissent? Ou ça, éthiquement, c'est pas possible de faire ça?
Pour l'instant, dans cette étude Pédiacam financée par l'ANRS, je l'ai dit, les enfants sont mis sous traitement assez précocement et nous avons prévu de faire un suivi assez régulier jusqu'à l'âge de 5 ans. Et pendant ce suivi, il y a un certain nombre d'éléments de suivi tels que la charge virale, les CD4, que nous essayons de prendre tous les 3 mois pour essayer de voir comment évoluent ces enfants. Bon. Ce qu'on constate, c'est que chez un certain nombre d'enfants, ces marqueurs sont tout à fait bien contrôlés et directement nous envisageons de bien discuter de cette question pour ensemble voir s'il est possible de proposer dans un schéma bien cadré.
Oui, il est bien clair qu'on ne proposera jamais d'arrêter le traitement chez l'enfant si la taille de ces fameux réservoirs viraux est pas extrêmement faible, voire indétectable.
Mais si c'est très faible, on pourrait envisager ça.
Mais si c'est très faible, on pourrait bien sûr envisager l'arrêt du traitement chez l'enfant, de façon bien sûr contrôlée et avec un suivi rapproché de ces enfants, de façon à pouvoir les remettre immédiatement sous traitement s'il y avait le moindre échappement. Donc c'est de la recherche. On est en train de parler de recherche et on n'est pas du tout en train de parler de la vraie vie. Dans la vraie vie, il n'est pas question d'arrêter le traitement.
C'est important de le rappeler. Hein. Ce sont des recherches qui pourront servir pour plus tard, mais il ne s'agit absolument pas pour les patients qui nous écoutent, qui sont sous traitement, d'essayer d'arrêter pour voir ce qui se passe.
Absolument. Hein.
Ça, on est vraiment très clair. On arrive à la fin de cette émission et on va terminer d'ailleurs en parlant du coronavirus. Professeur Françoise Barré-Sinoussi, aussi l'éternelle question aussi, bon, il y avait la question de la guérison qu'on vient d'essayer d'évoquer, c'est la question du vaccin. Est-ce qu'on en est où?
Alors, la question du vaccin, c'est l'éternelle question avec des hauts et des bas. On est dans une période de bas, je dirais, avec l'annonce récente d'un essai d'efficacité aux États-Unis, c'est HVTN 505, basé sur une construction à base d'adénovirus, et qui là encore est bien décevante, puisque ça ne montre pas de protection chez les personnes vaccinées, voire peut-être même encore un petit effet de facilitation. Alors, bon. En soi, finalement, c'est pas si surprenant que ça, puisque l'essai précédent avec le même type de vaccin avait été décevant. Je crois que surtout, c'est les leçons de cette recherche vaccinale dont on apprend beaucoup, avec de nouveaux espoirs aussi, avec de nouveaux candidats vaccins qui sont là pour essayer de provoquer des réponses en anticorps particulièrement fortes et puissantes. Il y a beaucoup de recherches dans ce sens et avec de nouveaux essais qui sont comme aux États-Unis. La recherche vaccinale, moi, je pense qu'elle va avancer. Elle va avancer parce que, à cause de ces échecs, on est en train de faire bouger ce que j'appelle les dogmes de la vaccinologie. À savoir que les vaccins qui marchaient jusqu'à présent, ils ont souvent été obtenus, il faut le dire, de façon empirique. Et là, on apprend. On apprend pas à pas, grâce justement à la recherche vaccinale sur le VIH, qu'il faut aller plus loin dans nos connaissances de base de l'immunologie et sur les réponses protectrices à induire. Donc, je reste optimiste.
Professeur Françoise Barré-Sinoussi, docteur Mathurin Cyril Dedjokem et docteur Patrice Etchanjou, merci beaucoup à tous les trois. On vous laisse d'ailleurs à ce symposium international sur le sida qui est organisé en ce moment par l'Institut Pasteur. Et on va terminer en parlant des coronavirus.
Priorité santé sur RFI.
Et pour terminer, je vous propose donc de faire le point sur le coronavirus avec le docteur Arnaud Fontanet, qui est chef de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur, professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Docteur Arnaud Fontanet, bonjour.
Bonjour.
L'Arabie Saoudite a fait état d'un nouveau cas d'infection le week-end dernier. Depuis quand d'abord connaît-on ce virus et quelle est son origine?
Alors ce virus, on le connaît depuis septembre 2012. Il y avait un patient qui avait été touché en Arabie Saoudite et pour lequel le médecin égyptien s'était douté d'une forme anormale de pneumopathie, avait envoyé des échantillons en Europe à Rotterdam. Le diagnostic a été fait là-bas. Et depuis, on a recensé 41 cas pour l'OMS à propos de ce nouveau coronavirus.
Est-ce qu'on sait comment se transmet ce virus ?
C'est un virus qui se transmet par voie respiratoire, par contact rapproché, très proche du coronavirus du SRAS. Vous me demandiez donc ce qu'on savait des coronavirus. Chez l'homme, il donne des maladies respiratoires. Il y en avait jusqu'à présent 5 répertoriés qui donnaient des maladies très bénignes comme le rhume, jusqu'à des pneumopathies graves comme celle du SRAS. Et donc ça, c'est le 6e. Alors que chez l'animal, on connaît ces coronavirus pour donner aussi des infections respiratoires, mais également digestives, et dans une très grande variété d'animaux.
Est-ce qu'il y a des traitements ?
Il n'y a pas de traitement qui ait fait preuve de leur efficacité contre le virus lui-même. Les patients qui sont touchés, on les prend en charge ce qu'on appelle de façon symptomatique, c'est-à-dire qu'ils ont souvent besoin d'assistance respiratoire, et c'est ça l'essentiel du traitement, et puis toutes les mesures d'accompagnement. Avec ce nouveau coronavirus, ils évoluent souvent également vers des insuffisances rénales, qui donc demandent des passages en dialyse. Mais il n'y a pas d'antiviral qui ait fait la preuve de son efficacité. Et même pour le SRAS, il y a 10 ans, après 8000 patients traités, on ne savait toujours pas quel serait le médicament efficace.
Et pourquoi a-t-on autant d'inquiétudes ? Est-ce qu'il faut redouter une pandémie ?
Alors ce qui nous inquiète, c'est qu'on a, comme je le disais, un virus qui est très proche de celui du SRAS. On se souvient de la gravité de l'épidémie du SRAS avec 8000 patients, 35 pays touchés. Et là, on se demande si ce nouveau virus, qui s'y apparente beaucoup, donc qui semble quand même moins transmissible que celui du SRAS, mais qui s'accompagne d'une mortalité très élevée, puisque la moitié des patients touchés sont décédés, si ce nouveau virus ne pourrait pas muter et devenir plus transmissible à l'homme, et alors donner naissance à une nouvelle pandémie telle que celle qu'on avait vécue il y a 10 ans.
On en est où, la situation en France ?
Alors, la situation en France, on a, comme vous le savez, 2 cas. Il y a eu une transmission interhumaine, donc un patient en a infecté un autre dans une chambre d'hôpital. On a donc suivi, c'est l'Institut Veille Sanitaire qui s'est chargé de ce travail considérable, tous les contacts de ces deux patients avec à peu près 200 personnes qui ont dû être suivies jusqu'à 10 jours, qui est la durée pendant laquelle se développent les symptômes si on est infecté, donc qui nous permet de dire au bout de ces 10 jours, ces personnes-là n'ont pas été infectées, il n'y a pas eu à ma connaissance de cas secondaire.
Et comment vont les patients ?
Les patients sont dans des situations, deux patients dans des états graves. C'est une maladie, comme je vous le disais, qui s'accompagne d'une mortalité de 50% pour les autres patients connus. Et pour l'instant, je ne suis pas clinicien en charge de ces patients, je ne peux pas me prononcer plus, mais ce sont des patients en état grave.
Est-ce qu'on peut dire qu'on progresse de plus en plus dans la détection de ces nouveaux virus ? Et on était en train de parler du sida avec le symposium qui se déroule à l'Institut Pasteur en ce moment. Est-ce que finalement, avec 30 ans de recul, on est de plus en plus rapide pour trouver ces virus ?
Voilà, on a des outils qui sont de plus en plus sophistiqués, basés surtout sur la biologie moléculaire. Françoise Barré-Sinoussi aussi, qui était avec vous tout à l'heure, il a fallu 2 ans pour la découverte du virus du sida, ce qui était effectivement remarquable. Mais pour le coronavirus du SRAS, je pense qu'à partir du moment où les échantillons étaient disponibles, il a fallu à peu près 1 mois. Pour celui-là, il a fallu également quelques semaines grâce à ces nouveaux outils dont on dispose. Et on est beaucoup dans l'anticipation aussi. Ce qui nous a permis finalement d'aller assez vite sur ce nouveau coronavirus, c'est toute l'expérience accumulée également avec le coronavirus du SRAS.
Et docteur Arnaud Fontané, justement, est-ce que l'exemple du sida vous sert de référence, entre guillemets ?
On est dans des situations, j'ai envie de dire, différentes. Ici, ce sont des épidémies très bruyantes. Les virus respiratoires, ça se transmet rapidement. On a des cas qui sont symptomatiques, très forte mortalité dans les jours qui suivent. L'épidémie de sida, pour moi, ça avait été une épidémie très silencieuse, puisque finalement, c'était un virus avec une incubation extrêmement longue. Bien sûr, une mortalité extrêmement forte aussi. Mais les jours, on a vu les premiers cas identifiés aux États-Unis, puis en Europe. Il y avait déjà des dizaines de milliers de personnes infectées dans le monde parce que sur une incubation aussi longue, le virus avait pu se propager sans qu'on le connaisse. Donc, c'est deux typologies très différentes d'épidémies avec, finalement, pour le sida, comme vous le savez, les conséquences gravissimes puisqu'encore aujourd'hui, 5000 personnes meurent du sida chaque jour.
Le professeur François Barissine, aussi une réaction par rapport à ce qui se passe là sur le coronavirus?
Oui, enfin, je veux dire, Arnaud vient de le dire, les épidémies sont totalement différentes. Mais c'est vrai, par contre, il y a eu un développement d'outils, notamment d'outils moléculaires fabuleux au cours de ces 30 dernières années qui permettent aujourd'hui de diagnostiquer beaucoup plus rapidement ce type d'infection. Et puis aussi, un système d'organisation et une mobilisation qui a bien évolué justement au cours de ces 30 dernières années et qui permettent de diagnostiquer ce genre d'épidémie émergente différente de par ces voies de transmission, comme le disait Arnaud.
Docteur Arnaud Fontanet, juste une dernière question puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Quel est l'enjeu de la recherche en ce moment sur ces nouveaux virus? C'est quoi? C'est de trouver des traitements très rapidement?
Alors, il y a différents niveaux. Et si on parle des coronavirus, bien sûr, on souhaiterait des nouveaux traitements. Il y a des modèles qui existent dans ce qu'on appellerait in vitro, sur des cultures cellulaires. On peut essayer de voir comment agissent différents produits. Après, la grande difficulté, c'est qu'il y a un saut entre ce que vous pouvez trouver au laboratoire et ce qui se passe réellement chez l'homme. Il faut pouvoir, après, tester chez l'homme des nouveaux produits en s'assurant qu'ils sont à la fois efficaces et pas toxiques. Et ça demande une organisation, la recherche clinique chez l'homme, qui est très complexe. Et dans les contextes d'urgence des nouveaux coronavirus, où on a des patients un peu éparpillés aux quatre coins du monde, comme on le voit actuellement et on l'avait vu avec le SARS, c'est très difficile d'organiser des recherches coordonnées qui permettent de démontrer l'efficacité d'un traitement chez l'homme. Donc c'est ça un peu aussi l'enjeu, même si je pense qu'effectivement on aura assez vite des propositions de molécules prometteuses pour traiter ces patients qui, comme je vous le disais, sont dans des attaques très graves. Avant de pouvoir prouver chez l'homme dans des essais bien organisés qui respectent à la fois les droits des patients et en même temps les besoins de la recherche, ça c'est une autre paire de manches.
Merci beaucoup docteur Arnaud Fontanet. Je rappelle que vous êtes chef de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur et professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Merci beaucoup à tous. Bon symposium international à l'Institut Pasteur.
Merci.
Merci. Merci et à demain. Au revoir.